bonjour et merci d'écouter ou de regarder Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Questions politiques avec l'équipe Jeff Wittenberg de France Télévisions. Bonjour Jeff, ravi de vous retrouver. Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Et une émission spéciale aujourd'hui pour prendre du recul avec deux des meilleurs analystes de la vie et des enjeux politiques. Le président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, directeur de la revue Pouvoir, Olivier Duhamel, et Brice Teinturier, le directeur général de l'Institut Ipsos. Ils seront avec nous jusqu'à 13h pour intervenir le hashtag QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter. Questions politiques, Ali Badou.
Olivier Duhamel et Brice Teinturier, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et
bonjour,
bienvenue. Vous avez longtemps travaillé ensemble pour produire un ouvrage de référence qu'on attendait chaque année, l'état de l'opinion. L'état de l'opinion qui permettait de faire la synthèse, de prendre du recul sur les évolutions du peuple français, de l'opinion. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la différence entre les deux. Qu'est-ce que la différence vous faites entre l'état de l'opinion et l'humeur d'un peuple, professeur Duhamel?
L'opinion, c'est la partie du peuple qui accepte de répondre à des questions qui parfois l'intéressent et dont parfois il se contrefiche.
C'est une bonne réponse, mais Brice Teinturier, vous suivez toujours ça de très près pour l'Institut Ipsos. Olivier Duhamel, où vous avez publié les mots du coronavirus avec Laurent Bigorgne, et on y reviendra tout à l'heure. Il faudra aussi que nous prenions le temps de vous interroger sur l'état de la démocratie avec la fin du quinquennat qui approche, une campagne présidentielle de 2022 qui a peut-être déjà commencé, et des confusions sur les meilleures formes de faire fonctionner notre démocratie. D'un côté, il y avait cette convention citoyenne pour le climat qui va rendre ses 150 mesures aujourd'hui même. De l'autre, il y a l'idée d'un référendum. Le Parlement, dans tout ça, semble escamoté. Et le président de la République, quant à lui, cherche à imaginer ce nouveau chemin dont il parlait lors de sa dernière allocution. Mais puisqu'on parle de la démocratie, vous avez vu la une du journal du dimanche aujourd'hui, et une question qui est quand même assez incroyable, qui est posée. Affaire Fillon, le poison du doute, y a-t-il eu des pressions sur la justice? Une, et à l'intérieur du journal, une interview de l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, qui dit les choses très clairement. Le débat présidentiel a été totalement escamoté et le résultat de l'élection, faussé. Fermez les guillemets. Que pensez-vous de cette citation de Brice Hortefeux et comment est-ce qu'on peut la recevoir, nous, citoyens?
Je pense qu'il y a trois problèmes qui sont posés, ou plus exactement, que cette affaire pose trois problèmes, mais qu'on n'en regarde que deux, alors que le troisième est peut-être le plus important. Il y a la question de savoir s'il y a eu pression politique pour nuire à François Fillon dans cette campagne présidentielle. L'enquête le dira. Ça me surprendrait. Ça me surprendrait que François Hollande ou Bernard Cazeneuve ait eu comme souci de faire élire Emmanuel Macron et de nuire à François Fillon. Il y a la deuxième question qui est de savoir s'il y a un acharnement judiciaire, une gauche judiciaire excessive qui a voulu s'en prendre à François Fillon. Là aussi, l'enquête répondra. Mais derrière ça, il y a une question de principe qu'on ne pose pas et qui est importante et lourde. Est-ce que, en campagne présidentielle, quand un des principaux candidats est l'objet éventuel d'investigation, voire de poursuites judiciaires, il faut suspendre parce qu'on ne doit pas interférer dans la campagne?
Oui.
Est-ce qu'il faut, au contraire, le faire et même accélérer pour que les électeurs votent en connaissance de cause? Ou est-ce qu'il faut, à l'intermédiaire, réponse facile mais qui évite quand même la question la plus hard, ou est-ce qu'il faut que la justice suive son cours normalement, ni plus vite ni moins vite? C'est ça la question fondamentale.
Et quelle est votre réponse à cette question?
Écoutez, ma réponse, c'est plutôt que je suis contre la suspension, particulièrement dans un système français dans lequel le président de la République est à l'abri des poursuites tant qu'il est président de la République, ce qui fait que ça pourrait être jugé, d'une part on pourrait élire un escroc, et d'autre part ça pourrait être jugé 5-10 ans après s'il est réélu et tout. Donc ça, c'est la suspension qui est défendue par certains, qui a des arguments, je ne partage pas. Je suis plutôt pour qu'on mène les enquêtes normalement, sans les accélérer frénétiquement, voilà.
Brice Teinturier.
Oui, je crois que dans le climat de défiance des Français à l'égard de la justice et des liens entre la justice et le pouvoir politique, suspendre une procédure et demander au peuple français d'aller aux urnes sans savoir ce qu'il en serait, serait encore pire. En revanche, je crois que ce qui est potentiellement aussi plus critiquable encore, c'est plutôt le feuilletonnage qu'on a eu durant la campagne présidentielle des informations. C'est-à-dire, c'est pas simplement un fait ou des soupçons ou le démarrage d'une procédure judiciaire.
À partir des premières révélations du canard enchaîné, voilà. Et ensuite, ça s'est poursuivi.
Il y a véritablement un feuilletonnage qui rendait absolument impossible toute campagne électorale. Ça me paraît indéniable, même pas sereine, mais toute campagne possible pour le candidat Fillon. Donc, il y a deux aspects là qui sont différents. N'oublions pas qu'il a fait 20%. Ce qui n'est pas mal dans les circonstances dans lesquelles il faisait cette campagne, et que l'argument de « on cherche à voler à la droite sa victoire » est un argument qui était assez entendu par les électeurs de LR. Donc aujourd'hui, rétrospectivement, ils doivent se dire « nous avions raison » et le thème d'une victoire volée est un thème qui peut revenir. Et dans une démocratie, ce n'est évidemment jamais bon si on revient sur les conditions de légitimité de l'élection d'un président.
Françoise Fressoze.
Olivier Duhamel, vous dites « je ne pense pas qu'il y ait eu des pressions de François Hollande sur la justice ». Mais en revanche, ce qu'on ressent, c'est au fond peut-être une politisation de la justice. Est-ce que est-ce que le parquet national n'a pas essayé de faire pression pour qu'il y ait absolument une mise en examen pendant la campagne présidentielle? Et est-ce qu'il n'y a pas derrière, au fond, le soupçon que les institutions françaises, on a vu la mise en cause de la police avec les violences policières, maintenant la mise en cause de la justice, est-ce que c'est quand même pas un ébranlement pour la démocratie?
Si, vous avez raison, surtout si on fait un peu zoom arrière et qu'on regarde les choses de loin, il y a quand même eu toute une période des années 60, 70, dans laquelle la justice était plutôt complaisante avec les politiques, elle n'allait pas regarder de très près sur les affaires, où d'ailleurs il y avait forcément moins d'affaires parce que il y avait moins de lois, il y avait une zone grise, il y avait rien, on savait pas ce qu'on avait le droit, pas le droit de faire en matière de financement politique, par exemple. Donc la zone grise, on n'allait pas y regarder. Et puis... Après, qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses, on a radicalement changé, et de règles et d'exigences, et les politiques, enfin des politiques, ont mis quand même longtemps à comprendre. Moi, ce qui me sidère le plus, c'est que en 2000, 2010, 2015, etc., il y a encore des politiques qui comprennent pas et qui respectent pas les règles. Et je pense qu'il y a eu une manière de désir de rattrapage, si je veux employer un mot un peu fort, de vengeance, de la part d'un certain nombre de juges, encore plus dans le climat dans lequel ils apparaissent presque comme des héros.
Mais le président de la République, Emmanuel Macron, saisisse le Conseil supérieur de la magistrature pour faire la lumière sur cette affaire. Est-ce que ça n'alimente pas, paradoxalement aussi, le doute sur ce qui s'est passé pendant la campagne de 2017?
Le Conseil supérieur,
ça alimente malgré tout, oui, l'idée qu'il y a quelque chose à lever, quelque chose à regarder de plus près. S'il n'y avait aucun doute, s'il n'y avait rien, pas d'affaires ni aucune question, on n'aurait pas ce processus. Ce qui je crois aussi est très grave, c'est que tout cela arrive 3 ans après. Vous rendez compte, pour les Français, 3 ans après l'élection présidentielle, on commence à avoir des éléments laissant entendre qu'il y aurait donc eu potentiellement des pressions de la justice. Sur l'idée que les Français peuvent se faire du fonctionnement de la démocratie, c'est un élément ravageur, tout autant que de savoir si François Fillon véritablement avait commis des...
Brice a mille fois raison. C'est quand même un truc de fou que pour mettre en cause François Fillon, c'est quelques semaines.
Oui.
Et là, on aura le jugement
le 29
juin.
Précisément.
C'est ça qui est
le 29 juin. Le jugement délibéré doit être connu. Est-ce qu'il aura, après les révélations que l'on a eues ces dernières heures, une valeur? Est-ce qu'il va être jugé caduc, discutable? Est-ce que les avocats de François Fillon n'auront pas beau jeu de dire mais ce jugement, finalement, qu'est-ce qu'il vaut?
Alors, écoutez, peut-être qu'ils le feront, mais normalement, non, parce que les juges qui rendent ce jugement sont des juges indépendants, sont des juges du siège, qui n'ont pas été nommés par le pouvoir politique. Le problème des procureurs et du doute, c'est que les procureurs sont nommés par le pouvoir politique, par le président de la République, et qui sont nommés sur simple avis du Conseil supérieur de la magistrature. Tandis que les juges du siège... Le pouvoir politique ne peut absolument pas nommer qui il veut. Et en plus, ils sont inamovibles.
Donc finalement, ça ne change rien à la condamnation éventuelle de François Fillon.
Comme toujours, il y a la vérité des choses et il y a la perception des choses. Sur la vérité des choses, c'est clair que ce jugement sera rendu par des juges indépendant et que donc il y a toutes les raisons de le tenir pour valable et le respecter. Et puis si les avocats sont pas d'accord, ils iront en appel et ce sera confirmé ou infirmé. Et au bout de l'histoire, justice sera rendue. En revanche, vous avez absolument raison, Jeff, sur la perception, les gens vont se dire ah là là, mais encore ces juges qui ont tellement abusé, maintenant ils se sentent obligés de condamner pour couvrir. C'est ça l'argument qu'on entend
des
années.
Ça.
Ils se sentent obligés de condamner pour couvrir. Oui, mais alors il faut qu'ils se sentent obligés d'acquitter pour pas être soupçonnés alors qu'il faudrait condamner. On n'en sort pas, c'est un truc de fou.
D'un mot, avant de donner la parole à Karine, Brice Teinturier, est-ce qu'on peut estimer à combien, quel pourcentage parmi les électeurs de droite croient qu'il y a eu manipulation, que l'élection a été volée?
Non, aujourd'hui, on n'a pas un tel chiffre. En revanche, on l'avait pendant la campagne électorale. Et c'était un sympathisant LR sur deux qui considérait...
Un sur deux?
Oui, qui considérait qu'effectivement, François Fillon était victime d'une machination politique. Mm-hmm. C'était un argumentaire du candidat Fillon. Et c'est un argumentaire qui a convaincu un électeur sur deux potentiel de François Fillon.
Karine Becker.
Alors, ce qu'on observe ces dernières semaines, c'est on a passé 15 jours à s'interroger sur le racisme dans notre police. Est-ce que la police était raciste ou pas? Et là, on a passé ces derniers jours ou cette dernière semaine à s'interroger sur l'indépendance de notre justice. Juste une question, comment elle va notre République en fait? Et comment l'opinion, comment les gens vivent dans cette République-là?
Notre République, elle va très mal, incontestablement. La crise de la représentation, sincèrement, c'est devenu maintenant une tarte à la crème. Depuis des années, nous savons que les Français, massivement, considèrent qu'ils sont mal représentés. La défiance à l'égard des institutions, elle en a aussi pris un rude coup. Même la police, qui bénéficiait en France de taux de confiance à des niveaux de 80%, on a observé des baisses de 10 ou 12%. Mmh. Donc, incontestablement, il y a encore un niveau de confiance qui est très fort à l'égard des forces de police, mais quelque chose s'est passé au moment des gilets jaunes. Et tous les piliers progressivement de la République, que ce soit la justice, dont on parle ce matin, que ce soit la police, que ce soit la sphère politique, que ce soit les médias aussi, qui font l'objet d'une suspicion de plus en plus forte, sont de plus en plus abîmés. Et on a à la fois une radicalisation, ça c'est ce qu'on appelle The Voice, hein, avec de la colère qui monte, et puis en même temps de plus en plus de Français qui se mettent hors jeu aussi. Mmh. Et vous le verrez probablement lors des élections municipales, le taux d'abstention va être à nouveau extrêmement élevé, pour beaucoup de raisons, et pas qu'à cause du Covid.
Et comment on sort de cette spirale, en fait, infernale dans laquelle on est entré, quand je vous écoute bien? Si tout est en train de flancher.
Déjà, la question de l'indépendance, elle est tout sauf simple. Parce qu'il y a l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir politique, qui est très soupçonnée alors qu'elle est en voie de réduction constante. Mais il y a aussi l'indépendance à l'égard de l'opinion. Regardez le procès Balkany. Dans les justifications, il y a même référence aux effets de leur décision sur l'opinion. Il y a l'indépendance à l'égard des médias qui recoupent un peu l'opinion, mais pas toujours. C'est parfois différencié. Et enfin, il y a l'indépendance à l'égard de soi-même, c'est-à-dire à l'égard de son idéologie, de ses choix personnels. Et donc, respecter toutes ces indépendances est l'objectif, certes, le plus nécessaire, mais pas le plus facile. Comment, du coup, on en sort? Écoutez, comment on en sort? Vous y allez avec la question la plus dure. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut pas mentir, et que donc il faut dire la vérité des choses. Par exemple, c'est bien qu'il y ait des enquêtes, c'est bien que...
Si on commission d'enquête parlementaire, par exemple.
Oui, ou après même, le CSM, par exemple. Si le CSM, il va y avoir les deux, d'ailleurs. Si au terme de ces enquêtes diverses, on apprend que un des éléments d'explication, c'est que la procureure générale de Paris et le procureur national financier pouvaient pas se supporter et ils se sont fait des vacheries mutuelles, qui est un élément d'explication
qui est sans doute
humain et fondamental dans l'histoire quand on regarde les détails. Bon, que deux, il y avait la volonté de la part tant du président du tribunal de Paris, assez à gauche, que de la procureure d'essayer de choper Fillon, pour le dire comme ça, et donc de choisir le juge d'instruction. Et donc, oh, c'est pas Tourneur qui est permanent, chut, on attend 48 heures. Ça y est, c'est Tourneur, c'est bon, Tourneur, il va y aller carrément.
Donc voilà, Tourneur, faut dire qu'il a été très anti-sarkozyste et il avait... Voilà.
Tout ça va être mis sur la place, puisqu'on commence déjà à le voir et à le comprendre. Ça devrait être, quelque part, ça fait du mal, mais au-delà, ça devrait faire du bien. Ça devrait dire, c'est pas normal, ça passe comme ça. Ah, on est quand même dans une démocratie, pas tellement de pays dans le monde dans lequel on nous décortiquerait ça comme ça.
Parce que le paradoxe, c'est que la République, la démocratie vont mal, et pourtant, c'est ce qui permet de tenir. Quand on traverse des crises aussi majeures que celles que nous traversons depuis des mois, les institutions, elles permettent malgré tout à la République, vous qui êtes un connaisseur, peut-être un amoureux de la constitution de la Ve République. Non, je plaisante, mais en tout cas, Emmanuel Macron ne serait plus au pouvoir depuis longtemps s'il n'y avait pas les institutions de la Ve.
Oui, mais écoutez, moi je travaille comme vous, même pas avec les mêmes fonctions à Sciences Po. On a des étudiants étrangers. Quand vous avez des étudiants chinois, quand vous avez des étudiants de Hong Kong, quand vous avez des étudiants même de Budapest, croyez-moi que eux, ils comprennent très bien. Ben, votre démocratie, elle va peut-être très mal, mais nous, on l'achète tout de suite. Hein.
Très Alors vrai. Justement, dans ce climat, se tient ce dimanche la Convention citoyenne sur le climat, c'est-à-dire 150 citoyens tirés au sort, qui a priori ne connaissaient rien aux questions de transition écologique et qui sont au fond amenés à faire des propositions que le pouvoir politique reprendra tel quel, soit par la voie réglementaire, soit par la voie législative, soit par la voie référendaire. Alors, est-ce qu'il faut saluer cette innovation ou est-ce qu'il faut en souligner les limites? Comment vous analysez ce qui se passe aujourd'hui?
Brice Teinturier.
Je crois que c'est un des éléments, vous aviez posé la question comment on en sort, c'est un des éléments possibles de sortie ou en tous les cas d'amélioration de la question démocratique et de la question de la représentation. Donc moi ça me paraît très important. Je crois que c'est quelque chose qui peut faire progresser les représentations des Français, qu'ils puissent avoir le sentiment d'être mieux associés au processus de décision. Maintenant, il y a des limites. Et les limites, c'est que les institutions et le processus démocratique, ils reposent aussi principalement sur la démocratie représentative, sur le vote et sur un certain nombre de mécanismes qu'il ne s'agirait pas ensuite de contester ou de mettre en question par des processus de délibération.
On peut se dire qu'on peut lire en tout cas cette convention citoyenne pour le climat, sa mise en place et l'importance qu'elle va prendre peut-être comme une disqualification du Parlement.
C'est le risque. Mais vous voyez, quand on pose la question, comment est-ce qu'on en sort? Moi, je crois qu'on a implicitement, en disant cela, un idéal qui serait de retrouver l'état de la société, de la démocratie d'avant. Mmh. Et ça, c'est terminé. Je pense qu'on ne le retrouvera pas. Donc c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on transforme la démocratie avec des mécanismes différents qui feront que ce modèle-là restera en tous les cas dans ses vecteurs essentiels, acceptable à nouveau par une partie de la population.
Mais du coup, quelle place on donne à la démocratie représentative et quelle place, nouvelle place on donne à la démocratie participative, en fait? Il y a un équilibre à trouver, c'est pas du 50-50, si?
La majeure, à mon sens, doit être la démocratie représentative.
Donc les députés, les élus locaux?
Oui, à condition que vous ayez des offres claires, distinctes, au moment d'une campagne électorale, que les Français puissent du coup choisir en fonction de véritablement ce qu'on leur présente, qu'on soit clair aussi avant l'élection et non pas après sur les alliances. Tous ces éléments-là sont des éléments fondamentaux de la démocratie représentative. Mais ensuite, il faut l'irriguer à nouveau. Il faut l'irriguer sur une série de sujets qui ne peuvent pas attendre 5 ans et qui ne peuvent pas relever uniquement de la délégation. Et là, la démocratie participative a un rôle à jouer.
Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas un paradoxe? Vous citiez tout à l'heure le mouvement des Gilets jaunes, dont l'un des moteurs a été la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Or là, la Convention citoyenne, elle propose de réduire à 110 km/h la vitesse sur les autoroutes. On sait a priori, on peut deviner que c'est une mesure qui ne plaira pas à un très grand nombre de Français. Et pourtant, vous dites, c'est peut-être la solution, la démocratie non pas représentative, mais participative. Est-ce que là, il n'y a pas une impasse, finalement? Parce que les mesures, elles sont très radicales, qui sont aujourd'hui proposées.
D'abord, le 80 km/h,
puis Olivier Duhamel.
Et il a été quand même proposé et mis en place par les représentants. Donc, ouais.
Mais ça a suscité une colère.
Tout à fait. Mais c'est pas le 80 km/h qui a été le déclencheur. Derrière les Gilets jaunes, il y avait bien plus que simplement le 80 km/h. Et puis, il y avait surtout une question de pouvoir d'achat et d'impossibilité pour des pans entiers de la société de renoncer à la voiture ou d'encaisser une taxe, c'était la taxe principalement, qui avait été posée. Mais c'est tout l'objet de la délibération. Qu'on le fasse au moment des élections, c'est très bien, simplement on ne peut pas délibérer et faire délibérer le peuple sur tous les sujets uniquement pendant la campagne électorale. Donc après, oui, il y a des paradoxes, c'est l'enjeu de la délibération.
François Spressoza.
Professeur Duhamel, il est question d'un possible référendum à l'issue de cette convention citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Au fond, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce référendum? Est-ce que ça change un peu la nature de ceux qui ont été jusqu'à présent produits sous la Ve République?
D'abord, je vous remercie de m'appeler professeur en ces temps où on appelait professeur exclusivement les médecins, ce qui était à la longue un peu énervant pour les autres.
C'est vrai, mais c'est très aussi bon. Ce que vous êtes, professeur des universités.
Oui. Je vais vous répondre. Vous permettez que je dise un mot avant sur
évidemment
ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de plus critiquable dans la convention. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir fait délibérer des citoyens avec des experts et que c'est une bonne chose qu'il fasse des propositions, qu'il soit pas les seuls à faire des propositions. Quand on dit que ça mange au Parlement, ça mange surtout au gouvernement, hein, parce que 90% des lois sont des projets de loi et donc viennent du gouvernement et pas des députés eux-mêmes. Mmh. En revanche, je pense qu'ils ont commis une erreur, même si certains s'en réjouissent. Ils ont été pris au piège de, je vais m'expliquer dans un instant, Ali, la légistique et ce qui débouche sur le normativisme. Oui, moi-même j'accroche. C'est-à-dire, ils ont absolument voulu traduire le plus possible de leurs propositions en droit. Et quand vous voulez traduire en droit, c'est-à-dire en loi ou en décret, ça donne quoi? Ça donne quantité de propositions qui sont interdire de rouler à plus de 110 km/h, interdire les terrasses chauffées, interdire les véhicules polluants dans le centre-ville, interdire les vols plus alors qu'on peut faire pour plus de 4 heures, interdire la construction de nouvelles aéroports, interdire d'aménager des nouveaux aéroports.
Sinon on sanctionne, sinon on punit.
C'est pas eux qui se sont enfermés, hein, c'était la commande, hein, c'était dans la lettre de Macron.
Oui, et ben c'est ça l'erreur. Ils pouvaient dire il y a des choses qu'on traduit en normes et d'autres pas, parce que sinon c'est énormément interdire. Quand c'est pas interdire, obligé. Parce que c'est pas, vous faites du droit, interdire, obligé. Mmh. Et quand il reste une autre voie, taxer. Bah, si vous voulez. On répète beaucoup ces jours-ci le truc de
l'écologie,
n'emmerdez pas les Français. Mais là, vous avez, sur 150, vous avez 100 emmerdements minimum. Bon. Alors, si on en vient à la question de François sur l'originalité du référendum. Oui, s'il a lieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il est annoncé, en tout cas, comme à plusieurs questions. On avait beaucoup dit que De Gaulle aurait dû en 69 dissocier la question sur le Sénat et sur les régions et qu'elle aurait perdu un et gagné l'autre. À plusieurs questions. Avantage, ça...
Ça, c'est possible.
Alors...
Ça existe dans la Constitution,
les juristes, c'est possible. Pas trop de questions, mais alors, en l'occurrence...
Les juristes, vous posez une question aux juristes, vous en avez qui disent oui et d'autres qui disent non. C'est très très rare qu'ils soient d'accord. Il faut vraiment que ce soit un truc absolument évident, incontestable, une procédure écrite où on ne peut pas dire le contraire. Sinon, leur gagne-pain, c'est quand même de dire le contraire l'un de l'autre. Bon, alors... Moi, je pense que c'est possible parce que c'est pas interdit. D'accord? Ceux qui disent que c'est pas possible disent, il n'y a pas écrit dans la Constitution qu'on peut faire un référendum à plusieurs questions, ou bien, il n'y a pas écrit qu'on peut faire un référendum consultatif. Bon, il n'y a pas écrit, mais il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit. Donc,
pour vous comprendre, on pourrait faire un référendum avec plusieurs questions, ouais. On pourrait répondre oui à la première, non à la deuxième, voilà. D'accord.
T'as deux avantages. T'as un avantage théorique, c'est assez démocratique. Ah, oui. On répond sur le sujet. Et ça a un avantage politique pour le président de la République, c'est que quand vous posez une question groupée ou une seule question, s'applique, vous connaissez ça, Ali Badou, je le dis souvent, la loi Woody Allen. The answer is no, what is the question? La réponse est non, quelle est la question? Si en revanche, vous faites le 110 km/h, les terrasses chauffées, peut-être pas un truc aussi pointu que les terrasses chauffées, mais les panneaux publicitaires, les aéroports, etc.
L'isolation des fenêtres.
L'isolation thermique, absolument, vous avez raison, ce sera probablement non, si ça y est. Eh ben, on peut dire, je vote non, vous voyez, les
Français... Mais c'est pas l'esprit, en fait, de la Constitution de 58, je trouve. C'est pas l'esprit, ce référendum-là, de la Constitution de 58.
Mais qu'est-ce que c'est l'esprit de
De Gaulle, ce que De Gaulle a voulu dans sa Constitution.
Ouais, alors, De Gaulle, dans sa Constitution, il voulait qu'il y ait plus de partis. La Ve République a revigoré les partis pendant 30 ans comme jamais. De Gaulle, il voulait qu'il n'y ait plus la distinction droite-gauche et rassembler tous les Français. De Gaulle, la Ve République, elle a...
On va y revenir à De Gaulle
alors,
tout à l'heure.
L'esprit, l'esprit, vous savez, moi je ne suis pas un adepte du spiritisme et chacun invente l'esprit qu'il veut. Si on veut inventer une participation populaire plus importante entre les élections, un référendum à plusieurs questions peut être une bonne solution.
Alors la conséquence Brice politique, Taturier. C'est que... Pardonnez-moi.
Karine, Brice Taturier, parce que vous voulez compléter ce que disait Olivier.
Non, je voulais revenir sur l'idée de l'écologie punitive et sur le fait que la production ensuite de droit produit des interdits et que ça crée ensuite, dans l'opinion publique, plutôt du rejet. Ce que j'observe malgré tout, c'est que même si la question du pouvoir d'achat et du chômage remonte en flèche dans les préoccupations des Français... Le Covid-19 ou la Covid-19 reste la préoccupation numéro un, mais l'environnement n'a pas disparu. Et quand vous êtes sur une thématique aussi profonde, aussi partagée malgré tout dans la population française, c'est très bien de dire on ne peut pas être dans de l'écologie punitive, mais à un moment donné, on est forcé malgré tout de produire des restrictions à un certain nombre de comportements et d'usages. Ou alors on se paye de mots. Et tout l'écueil, je crois, il est là. C'est que il faut aller dans ce sens parce que il n'y a pas de solution miraculeuse. Et effectivement, si on réduit le débat uniquement à cela, eh bien, vous avez des réactions plus qu'éruptives, rationnelles d'individus qui ne peuvent pas rentrer dans le système d'interdit que vous avez posé.
Françoise Fressoz.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dresser l'état de l'opinion publique à la fin du déconfinement. Quelles sont les attentes des Français? Quelles sont leurs craintes? Et comment est-ce qu'on combine tout ce que vous dites, c'est-à-dire une vraie exigence écologique et puis quand même, je pense, le drame social, le chômage. Comment vous sentez l'état de l'opinion?
Brice Taturier.
D'abord, il y a quelque chose de très clair. Les taux d'inquiétude qui étaient absolument phénoménaux au mois de mars, de l'ordre de 80-90% sur toutes les dimensions, ont considérablement décru. On est à 50-53% suivant les sujets.
Inquiétude par rapport à l'évolution de la pandémie?
Par rapport à la pandémie, par rapport à un risque de saturation du système hospitalier, par rapport à une possible deuxième vague de Covid-19, ce qui veut dire quand même qu'un Français sur deux est encore inquiet, hein, malgré tout. On n'est pas du tout dans l'état d'avant. Mais le phénomène le plus marquant, une fois qu'on a dit ça, c'est que la peur a changé de camp. La peur sanitaire dominée, la peur économique domine massivement et écrase maintenant le reste. Donc les Français considèrent, pour les deux tiers d'entre eux, qu'on est face à une récession qui va durer, qui va être une récession d'ampleur, et ils sont extrêmement pessimistes sur notre capacité à retrouver une situation, on va dire, à peu près stabilisée.
Pour deux tiers des Français, la préoccupation, l'inquiétude devant la situation économique est plus forte.
Quand vous leur demandez, est-ce que c'est quelque chose? Non, c'est quand vous leur demandez, est-ce que, d'abord, ils sont inquiets sur la situation économique à 90-95%. Donc, tout le monde est inquiet. Et pas un peu inquiet. Extrêmement inquiet. Ensuite, quand vous leur demandez, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va être difficile pendant quelques temps ou est-ce qu'on est face à un phénomène d'ampleur, de récession d'ampleur, les deux tiers s'attendent plutôt à une récession d'ampleur. Donc, le pays est profondément inquiet sur les aspects économiques. Les transformations qu'il y a eu malgré tout à travers cette phase du Covid jouent sur un certain nombre de points. Moi, je ne crois pas beaucoup que le monde d'après va être fondamentalement différent du monde d'avant, pour plein de raisons.
Peut-être sur la ligne Le Drian, ce sera comme travail, le monde d'avant, empire.
Voilà. mais la relation au travail, malgré tout, il y a des choses qui ont été expérimentées par une partie, il faut vraiment être sérieux, par une partie des salariés qui ont télétravaillé, qui ont retrouvé de l'autonomie, qui ont retrouvé des choses positives, qui ont du mal à revenir sur les sites. Aujourd'hui, tous les groupes vous disent on a du mal à faire revenir les salariés, les collaborateurs sur les sites. Mais là, il y a quelque chose qui a été expérimenté dans la relation au travail. Ça, je pense que ça peut durer. Sur les grandes préoccupations, une fois que vous avez dit que le chômage qui avait quasiment disparu par rapport aux 20 dernières années, en tous les cas qui était retombé au 4e ou 5e rang des préoccupations, il remonte maintenant. Le pouvoir d'achat n'avait jamais disparu, mais évidemment, cela remonte. Donc, on est face à des préoccupations économique et social, avec, c'est là ce qui fait la singularité de la période, avec un niveau qui reste extrêmement élevé, les préoccupations, malgré tout, sanitaires et environnementales. Et c'est les deux qui coexistent.
Mmh. Intéressant.
Et il y a un niveau de défiance vis-à-vis de l'exécutif, vis-à-vis du pouvoir politique, qui pendant le confinement et pendant la phase de déconfinement reste très important, reste très fort. On se demande comment le président Macron peut réussir à renouer le fil avec la population, peut réussir à renouer le fil avec l'opinion. Comment est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y parvient pas? Qu'est-ce qui lui manque?
Déjà sur le constat, oui et non, parce que la popularité d'Emmanuel Macron aujourd'hui reste plus élevée que celle qu'il avait avant le Covid. Mmh. Elle a beaucoup progressé au début de la phase Covid, elle a ensuite considérablement baissé, mais le point d'atterrissage reste malgré tout plutôt supérieur à ce qu'on avait avant. Après, il y a une défiance qui reste extrêmement forte. Un des enseignements aussi de cette période, c'est que les clivages politiques ont très peu bougé. Quand on dit plus rien ne sera comme avant, bah écoutez, moi je regarde les enquêtes et je trouve plutôt que beaucoup de choses sont comme avant. Les clivages ont extraordinairement peu bougé.
Expliquez-nous, puisque c'est souvent quelque chose qu'on confond. Qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure la popularité d'un homme politique, ou en l'occurrence du président de la République? Est-ce que ça veut dire qu'on l'aime bien, qu'on le trouve sympa, qu'on votera pour lui? Et quelle différence avec ce qu'on mesure quand on se demande quelle est la confiance que les Français font au gouvernement pour gérer une crise comme celle du Covid-19? C'est des questions totalement différentes, mais on les confond souvent.
Oui, alors vous avez évoqué en réalité là trois indicateurs. La question de la popularité, qui est distincte de la confiance. On peut avoir une bonne opinion de quelqu'un sans forcément lui faire confiance. Donc la question de confiance est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus dure. Et puis le troisième indicateur, ce qui n'a rien à voir pour le coup, ou très peu à voir, c'est le vote. Puisque le vote, c'est une question de concurrence. Vous choisissez entre plusieurs candidats, ou vous choisissez de ne pas choisir en restant chez vous. Mais vous pouvez très bien avoir une relative piètre opinion d'un candidat, et malgré tout, voter pour lui, un vote par défaut, par comparaison avec les autres.
Mais être populaire ne sert à rien?
Si,
Olivier
quand
Duhamel,
même. Non.
J'exagère, mais l'essentiel, c'est qu'on vous fasse confiance.
Un certain degré d'impopularité finit par aboutir à l'inéligibilité. Et regardez ce qui est arrivé à François Hollande. Oui. Bon. Après, Il faut distinguer quand on juge la popularité du président de la République ou du Premier ministre, et puis la popularité en général des hommes politiques. Dans la popularité en général des hommes politiques, on aime les faux hommes politiques. Hulot, c'est le plus populaire de tout. Évidemment, il n'est plus au pouvoir et il s'occupe de ses machins. Jack Lang, évidemment, il préside l'Institut du monde arabe, et de temps en temps, il fait une grande déclaration sur la jeunesse, etc.
Bon. Rosine Bachelot.
Voilà.
Et d'ailleurs, Rosine Bachelot, Jack Lang, voilà. On peut lui rendre hommage pour la fête de la musique aujourd'hui.
Mais en ce moment, Édouard Philippe, quand même. Donc, il est juste derrière alors, Nicolas
oui,
Hulot.
Mais je ne mets pas Édouard Philippe dans la même, justement, c'est dans le même sondage, mais moi, je ne mets pas dans la même catégorie Nicolas Hulot, Jack Lang ou Rosine Bachelot et Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est la popularité de quelqu'un qui participe à l'exercice du pouvoir. Ah oui. Et ce qui est intéressant dans le cas de Philippe, c'est l'évolution parallèle de celle du président de la
Alors,
République.
Alors expliquez-nous ça.
Et le delta.
Restons là-dessus parce que c'est très intéressant.
D'abord, le delta s'est fondamentalement créé puis étendu. Le delta, c'est-à-dire la différence de popularité favorable à Édouard Philippe et défavorable à Emmanuel Macron, tout au long de la crise
du Covid.
Pour quelle raison ?
Tout au long de cette crise. Une des raisons, c'est que je pense que dans la dit la communication, ce mot est un peu galvaudé, mais dans la relation avec les Français, et dans le discours et l'action des dirigeants pendant cette pandémie, Emmanuel Macron n'a pas trouvé le bon logiciel, comme on dit. Il a fait, d'abord il passait d'un truc à un autre, de discours quasi prophétiques à des discours miniatures, tandis que, et qui paraissait parfois pour part au moins artificielle. Et qu'à l'inverse, Édouard Philippe a totalement trouvé, dans cette situation de crise, la façon de s'exprimer aux Français, claire, semblant authentique, et même, je dirais, authentique, dans le fond, parce que, d'ailleurs, les gens qu'il fréquente disaient qu'il parlait à la télé comme il nous parle dans les réunions, ou comme il nous parle dans la vie.
Presque un peu austère, mais finalement
oui,
efficace. Quoi.
Oui, ce qui n'est pas plus mal, aussi. Et que, du coup, il y a eu une adhésion à la manière de diriger et de dire ce que l'on est en train de faire, donc de faire et de dire. Le faire et le dire d'Édouard Philippe se sont bien articulés et lui ont valu cette popularité qui est presque de la part des Français une découverte en vérité. Parce que nous, évidemment, on vit dans ce monde, tout ça, on le suit de très près, mais pour beaucoup de Français, avant la crise, Édouard Philippe, d'accord, il était le Premier ministre, mais enfin, il était pas devant la scène, on savait pas très bien qui c'était, on se disait, bon, Macron a fait un bon coup, le mec est un peu à droite, mais sympa, point barre. Là, ça a changé complètement.
Mais c'est ponctuel ou pas?
Ça pose aussi, je crois, une vraie question avec les institutions de la Ve République, c'est quand les attentes des Français sont pratico-pratiques et organisées autour de la peur, à quoi sert le président de la République pour les Français ? Et c'est redoutable, c'est la difficulté qu'a connue Emmanuel Macron. Les regards se tournent vers celui qui organise les mesures. Donc on est dans le comment, on n'est pas dans le point d'atterrissage ou la vision. Les Français, à ce moment-là, sont dans du court terme et du comment.
Mais l'attente est considérable. Regardez les audiences des allocutions présidentielles à la télévision.
Bien sûr,
record historique pour la troisième.
Parce que les Français n'oublient jamais que le patron, c'est le président de la République. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas une représentation du monde, c'est des décisions extrêmement concrètes.
Le 11 mai.
Et du coup, pour Emmanuel Macron, la difficulté était totale parce que tantôt, il était dans du très concret, mais à ce moment-là, on se demandait qu'est-ce qu'il fait par rapport à son Premier ministre. Tantôt, il donnait un point d'atterrissage en réalité important pour les Français. Quand il a annoncé le 11 mai, ça a changé beaucoup de choses dans les représentations des Français. Mais ça paraissait finalement assez superfétatoire ou en tous les cas très rhétorique par rapport à l'attente très pratico-pratique de nos concitoyens.
Vous avez inventé le mot média politique et pour le coup il s'est mal débrouillé.
Exactement.
Dans cette matière-là, Emmanuel Macron.
Il s'en sont aperçus mais trop tard, puisque regardez dimanche dernier quoi. Qu'est-ce qu'il a fait dimanche dernier? Il est venu faire un discours à la Édouard Philippe, mais simplement.
Mais dans le cadre qui est celui en général du président de la République depuis l'Élysée avec les dorures et les drapeaux derrière.
Et une petite fontaine.
Et la fontaine.
C'est vrai.
Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, Emmanuel Macron, ce qu'il essaye de faire dans la période actuelle, c'est d'essayer de retrouver un récit commun mobilisateur. Il a tendance toujours à convoquer l'histoire. Il y a eu Clémenceau, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Là, il y a eu De Gaulle. Et donc, est-ce que vous pensez qu'au moment où on sort du confinement et qu'au fond la phase de gestion est finie, il peut essayer de s'appuyer sur l'histoire pour revenir ou est-ce qu'il a définitivement perdu le fil avec les Français?
Je pense que Olivier tous les Duhamel. Conseils qui lui sont donnés...
Parlez bien dans le micro, Olivier Duhamel.
Tous les conseils qui lui sont donnés, y compris par des esprits aussi distingués que vous, Françoise Fressos, qui sont, il faut qu'il donne une vision, il faut qu'il fixe un cap et tout... Je pense que je cherche une terminologie correcte.
Aimable.
Hein ?
Une terminologie aimable.
Je pense que c'est assez erroné. Je pense que les Français, quand on leur parle cap, vision, etc., ils comprennent de plus en plus que c'est du blabla et du baratin, et que ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise « voilà ce qu'on va faire demain ». Voilà comment je compte y arriver, et voilà comment il faut que...
Donc le nouveau chemin, ça ne sert à rien.
Bah, en tout cas, le cap, la vision, le truc, non. Le machin...
Il y a malgré tout, je crois qu'il y a une
force de trait un peu.
Il y a une vraie question derrière cela, parce que ce n'est pas qu'un problème de récit. S'il n'avait qu'à retrouver aussi. Un récit, j'ai envie de dire, ce serait difficile, mais ça serait encore possible. C'est un président sans mandat, par rapport au mandat sur lequel il a été élu. Je ne dis pas sans légitimité, sa légitimité elle est totale, il a été élu, etc. Mais il a été élu sur des décisions, une vision du monde, l'idée de la mobilité, l'idée, toute une série de choses qui ont été pulvérisées d'abord par les Gilets jaunes, mais ensuite et surtout par le moment que nous venons traverser. Donc c'est ça sa difficulté, c'est plus qu'un récit, c'est retremper les conditions de légitimité d'un nouveau mandat, et on voit bien qu'il a du mal à le trouver et qu'il tâtonne sur...
Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile alors que nous avons tous traversé la même pandémie, que c'est une maladie, le virus pouvait frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. On aurait pu penser que ça créerait le sentiment d'un destin commun, et c'est absolument pas le cas.
Mais parce que moi, je crois que c'est de la connerie en barre, votre histoire de récit et de storytelling. Voilà,
moi,
enfin
clair.
Là, je...
C'est le professeur Duhamel.
Non, mais excusez-moi. Et du coup, quand on lui dit ça, et que tout le monde et ses conseillers lui disaient, puis il faut qu'il donne le cap et qu'il nous fasse un récit. Alors lui, il repart dans les machins à la Clémenceau, à la De Gaulle, à la truc, et les Français, mais c'est pas du tout leur problème, ça. Ils disent, ça y est, ça recommence.
Il y a deux choses. Il y a la forme, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être dans une rhétorique qui très vite peut donner le sentiment aux Français qu'on est justement dans la rhétorique ou dans quelque chose qui serait trop verbeux. Et là, la sobriété et le ton d'un Édouard Philippe ont été plus appréciés. Mais il y a quand même un vrai sujet qui est où le président nous emmène-t-il ? Et dans ce pays, la parole présidentielle continue à avoir de vrais effets sur les représentations des Français, sur l'idée qu'ils se font de l'avenir, sur la direction que l'on prend ou pas. Et pour l'instant, cette direction, elle est quand même un peu incertaine.
Merci.
Nuancé,
donc c'est pas
très nuancé.
Bon, bah, il est plus sympathique avec moi en tout cas. Et considère que ma question avait un sens.
J'espère que Stéphane Rosès n'a pas écouté ça, parce que sinon je vous dis pas ce que je vais prendre sur mais la nation, le récit.
Javier Tambert.
Parmi les moyens, Brice Tinturier, que vous citiez tout à l'heure pour mesurer l'état de l'opinion, il y en a un quand même qui est assez basique, c'est le vote. Et il se trouve qu'on a peut-être oublié, mais quand même, il y a des élections la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que l'état de l'opinion tel que vous l'avez décrit, qui finalement n'est pas plus hostile à Emmanuel Macron qu'il ne l'était avant cette crise, ça va jouer sur ces élections municipales? Est-ce qu'on peut observer un frémissement, ou est-ce que les jeux sont joués, est-ce que les dés sont lancés et rien ne se passera finalement pour La République En Marche, qui s'attend quand même à une sévère défaite dans ces élections?
Brice Tinturier.
T'es dans au premier tour, dans les villes où La République En Marche avait une liste autonome, ça a été des scores à un chiffre.
Absolument.
Donc, si on dit les choses très clairement, c'est un désastre électoral, le premier tour, pour La République En Marche. On ne voit pas pourquoi tous les enseignements du premier tour, primo sortant, primo LR, primo PS aussi, qui s'est bien tiré d'un certain nombre de situations, poussé des écologistes, stagnation du Rassemblement National qui a certes été réélu dans pas mal de ses 8 fiefs, mais malgré tout il n'y a pas de dynamique non plus. Pourquoi tout à coup, au second tour, on aurait un bouleversement majeur de cela? La seule chose, je crois, fondamentale à regarder, c'est le niveau d'abstention. On a eu une abstention massive en hausse de 19 points par rapport à 2014 au premier tour, qui était due en grande partie, évidemment, à la peur de la Covid-19. Mais je crois qu'il n'y avait pas que ça. Et pardonnez-moi, mais j'en reviens toujours à cette idée, il me semble qu'elle est de plus en plus prégnante, que de plus en plus de Français se mettent hors du jeu. Ce que j'avais appelé à un moment donné les PRAF,
qui
n'ont plus rien à faire ou plus rien à foutre.
Rappelez-nous ce que ça veut dire.
PRAF, plus rien à faire, ça c'est la forme modérée, ou plus rien à foutre, c'est la forme un peu plus rugueuse.
La forme duhamélienne.
Et décidément, je trouve que dans cette émission, on commence à parler d'une curieuse manière. Mais du coup, moi je vois venir une abstention à nouveau extrêmement forte, et pas simplement pour des questions conjoncturelles de peur.
Olivier Duhamel.
Alors, je suis en désaccord avec... partiel, j'allais dire radical pour forcer le trait, partiel avec ce que vient de dire Brice Tinturier quand il dit la seule chose fondamentale, c'est l'abstention. Je suis d'accord que c'est très important l'abstention, je suis d'accord que c'est pas important seulement parce que ça valide ces théories du PRAF, mais que non, c'est légitime aussi de les valider pour part, mais je pense pas que ce soit la seule chose importante. Par exemple, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Besançon, Mulhouse, Strasbourg, Metz, Orléans, Tours. Là, je vous cite des villes. L'Alliance écolo-gauche conduite par un écolo, par un vert, avec victoire possible. Et si j'ajoute Paris, Nantes, Rennes, Rouen, Villeurbanne, Angers, Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nancy, là je vous parle de la même alliance conduite par une personnalité de gauche. Si l'ensemble de ces villes, ou si même on s'en tient à la première liste, si les grandes villes que je viens de citer voient arriver à leur tête un maire vert en alliance avec la gauche, c'est un événement politique considérable. Alors évidemment, comme il n'y a pas eu de campagne, comme on n'a pas parlé des municipales, ça va mettre longtemps à infuser, à ce que les gens s'en aperçoivent. Peut-être que le soir de l'élection, on va en parler un petit peu et que ça rentrera. Mais imaginez, c'est quand même, par rapport au bouleversement politique de 2017, oui, à l'irruption d'En Marche, à la marginalisation totale du Parti Socialiste, à l'éclatement intégral des gauches, et à la faiblesse à l'époque des Verts qui n'avaient même pas figuré à la présidentielle, on retrouverait une situation politique radicalement nouvelle. Et si, par aventure, par lucidité, ces forces-là, avec cet appui local considérable, s'accordaient sur un candidat, excusez-moi, mais l'élection, alors, l'élection de 2022 ne serait pas ce qu'on croit qu'elle va être.
Françoise Fressoz et Brice Teinturier.
Compte tenu du niveau extrêmement élevé de l'abstention partout, est-ce qu'on peut tirer des leçons nationales de ce scrutin municipal? Au fond, ça va être la grosse question de la fin du deuxième tour.
Moi, je crois que oui. D'abord, Olivier a tout à fait raison de souligner que si événement politique il y a, il va tourner autour de cette coalition gagnante dans certaines villes, écologistes et forces de gauche. Je disais que l'enjeu de l'abstention, c'est par rapport aux enseignements du premier tour. Et dès le premier tour, on a comme enseignement la poussée écologique totalement en phase avec la poussée de la préoccupation à l'égard de l'environnement. Donc il y aura peut-être moins de villes, parce que parmi celles que vient de citer Olivier, il y en a...
Oui, je vous trouve optimiste, reste... oui. Et je voudrais revenir
sur ça.
Je
n'ai pas dit que
on va pas refaire toute la liste de
ces villes. Pas en tout cas,
c'est une tendance
exactement
possible.
Mais malgré tout, y compris effectivement à Rennes ou à Nantes, où ce sont les maires sortants PS qui sont en position très très forte, le poids des écologistes est un point important. Et ça... Ça dessine quand même dans ce pays l'idée qu'une coalition gauche écologiste, si elle trouvait une incarnation, donc il y a beaucoup de si elle trouvait une incarnation après les municipales, eh bien pourrait bien évidemment percuter la chronique annoncée d'un duel à nouveau entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et qu'on a à minima une autre tripartition possible qui pourrait se jouer.
À voir avec des surprises. Est-ce que par exemple vous avez commencé à prendre en compte Jean-Marie Bigard dans les candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2022? Je le dis en souriant, mais il est dans Le Parisien aujourd'hui où il déclare qu'il est ravi de faire peur.
Non, on n'a pas encore fait d'intention de vote présidentielle avec de tels candidats. Ça montre quand même, c'est un symptôme de quelque chose, ne serait-ce que cette espèce d'hypothèse ou d'engouement dont on parle de plus en plus. Ça montre bien que la disruption, comme on dit, j'ai horreur du terme, mais qui a été initiée à partir de 2017, elle n'est pas finie, que le système politique ne s'est pas stabilisé, qu'il n'y a pas de retour à la situation d'avant avec les forces politiques traditionnelles, qu'Emmanuel Macron a incarné cela avec son « et de gauche et de droite ». Aujourd'hui, vous prenez la structure des sympathisants de la REM, c'est absolument pas « et de gauche et de droite », c'est « et du centre et de la droite », et 13% simplement qui se situe à gauche, et que du coup, le système n'a pas fini de turbuler, et qu'il y a toujours du...
Mais justement, sur ça, c'est ce qui a aussi marqué cet entre-deux-tours, qui n'est pas vraiment un entre-deux-tours, mais juste avant le deuxième tour des élections municipale, en tout cas, ces accords entre La République En Marche et Les Républicains. Parlons-en un instant. Est-ce que c'est une bonne stratégie, puisqu'on va avoir des accords locaux entre des gens qui finalement se combattent au niveau national? Qui va perdre en fait dans cette affaire-là? Est-ce que c'est une bonne stratégie donc, et est-ce qu'il y en a un qui va dévorer l'autre?
Brice Teinturier.
Alors, d'abord, il y en a peu, ces accords. Quand vous regardez l'ensemble des villes, il y a en réalité assez peu de cas où il y a des accords, l'AREM et l'ER pour le second tour des municipales. Mais quand il y en a, ils sont emblématiques. Oui, et puis on a vu ce qui s'est passé à Lyon, même si justement La République En Marche ne soutient plus ces candidats qui ont fait accord avec les LR. Moi, je crois que c'est tout simplement totalement cohérent avec la base électorale des sympathisants LAREM aujourd'hui. Mais ça renvoie
donc
à la question...
Donc ils font semblant de se détester au niveau national ?
Non, ça renvoie à la question précédente qu'on évoquait. C'est Emmanuel Macron et La République En Marche. Quel est le tropisme et le point d'atterrissage final ? Est-ce que c'est finalement une politique classique, assez classique, de centre-droit, de droite, qui était libérale en termes d'inspiration, qui essayait de combiner aussi des éléments de solidarité, mais pour faire court et un peu grossier, l'UDF qu'on a connu à une certaine époque, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est différent? Quand vous avez des signaux tels que ces alliances, eh bien ça plaide dans ce sens. Quand vous avez des éléments dans le discours présidentiel qui vous parlent d'environnement, de solidarité, etc., ça tire de l'autre côté. Donc nous attendons, et je pense que le pays aussi s'interroge, nous attendons cet acte 2 ou 3 du quinquennat, ce mandat qui va essayer de retremper sa légitimité.
Clarifié.
Oui, ça reste une vraie question malgré tout.
Il reste peu de temps.
J'aurais juste demandé à Olivier Duhamel si Emmanuel Macron, qui a probablement intégré cette défaite annoncée aux élections municipales, a des moyens de rebondir après donc ce qui paraîtra comme, je reprends votre expression Brice, un désastre électoral. Est-ce qu'on peut diriger un pays lorsqu'on ne dirige aucune grande ville ? Légalement, c'est possible, mais est-ce que politiquement, c'est possible sans prendre d'initiative ?
Oui, ça, je crois que dans la Ve République, c'est pas un problème. Je pense que en 1977, pour prendre la dernière immense vague électorale à des élections municipales, et vous avez une vague électorale de gauche considérable.
Mais il reste
vous
des bastions. Il reste
gauche,
des bastions de droite.
Pardon ?
Il reste alors des bastions de droite à l'époque.
Mais laissons finir, Olivier Duhamel.
Non, mais oui, mais là vous parlez d'un parti qui n'existait pas. Moi, voilà. Je pense que En Marche a commis une erreur totale de pas aller partout en candidature autonome en disant on n'existe pas, on ne peut pas gagner ces élections, on va être franc avec vous, mais on veut construire un nouveau parti, une implantation locale, et donc tant pis, on y va nous-mêmes et on reste nous-mêmes jusqu'au bout. Mais parce que ça remonte à avant, l'erreur de pas avoir fait de En Marche un vrai mouvement politique nouveau, mais juste une machine électorale pour gagner, et après rien de précis. Donc, mais on peut, sous la Ve République encore plus, gouverner même si on ne contrôle pas la plupart des villes.
On va tourner le chapitre, Françoise Fressoze.
Vous dites l'événement important des municipales, c'est ce qui va se passer à gauche et peut-être l'espoir de victoire sur des alliances assez larges à gauche.
Oui.
Beaucoup intègrent la France insoumise dans ces alliances. Est-ce que vous pensez que c'est reproductible pour la présidentielle ? Parce qu'au fond, ce qui bloque la capacité d'un candidat de gauche à s'imposer sur le paysage, c'est qu'il y a la concurrence Mélenchon. Comment vous pensez que les municipales peuvent influer sur la présidentielle ?
Bah, les municipales, avec le bémol que vous venez à juste titre de noter, ne sont pas un succès pour la France insoumise, qui, allés seuls, etc., n'ont pas fait de résultats intéressants. Et d'autre part, les alliances dont vous parlez, assez souvent d'entre deux tours, parfois dès le premier tour, ne sont pas une bonne nouvelle pour Mélenchon, parce que c'était pas la ligne de Mélenchon. Donc ce que je crois, c'est que les municipales vont marquer l'absence de progression de Marine Le Pen, parce qu'on garde les fiefs, mais on n'a pas de vraie conquête à une ou deux exceptions près, vont marquer l'échec annoncé et auto-organisé d'En Marche, et vont marquer une fragilisation de la France insoumise.
Mais ce qui est intéressant aussi, juste un mot
j'aimerais
encore...
juste vraiment qu'on passe à un autre sujet, mais terminez Karine.
C'est intéressant de voir tous ces grands
36
barons...
36 000 communes et tant d'alliances possibles.
Tous ces grands barons locaux à gauche qui finalement vont les garder, leurs fiefs. Je pense à Clermont-Ferrand, à Rennes. Enfin voilà, tout ce PS qui reste très installé. C'est marrant qu'ils soient aussi puissants encore finalement au niveau local et qu'ils n'arrivent pas à faire émerger des personnalités d'envergure nationale.
Alors, grand baron, vous êtes un peu vache, parce que, par exemple, maire de Rennes, maire de Nantes, ce sont des femmes jeunes qui ont marqué un renouvellement. Comme
mais qui
le
sont
PS
à leur deuxième mandat, voire leur troisième.
Oui, d'accord. Et puis, d'autre part, c'est pas nouveau dans l'histoire politique que des grands élus n'émergent pas sur le plan national, notamment parce que beaucoup d'entre eux ne veulent pas. Parce que vous savez, vous n'avez pas fait de politique. Ce qu'il y a de mieux, mais de mieux et de mieux, c'est d'être maire. Et d'être maire d'une grande ville, c'est formidable. Vous faites des choses, vous voyez ce que vous faites, vous n'êtes pas emmerdé par les médias qui s'occupent pas beaucoup de vous. Enfin, c'est plein d'avantages.
Sauf ici, où on s'intéresse vraiment de très près à ce qui se passe dans les différentes municipalités. Il y a un sujet aussi dont j'aimerais savoir comment il est perçu par l'opinion, Brice Teinturier. C'est celui du rapport au passé, du rapport à la mémoire coloniale, la mémoire de l'esclavage. Ce sont des débats qui enflamment l'espace public. Est-ce que ça imprime dans l'opinion ? Est-ce que ce sont des sujets de préoccupation, de clivage ?
Alors, c'est difficile de vous répondre d'abord parce que nous n'avons pas, en tous les cas, moi je n'ai pas d'indicateur portant sur cette question précisément et permettant de mesurer jusqu'où va l'intérêt et les réactions des Français. Malgré tout, on a d'autres indicateurs qui nous montrent que ce sont des questions qui taraudent profondément la société française. Parce que quand on évoquait l'ébranlement, l'inquiétude démocratique ou un certain nombre d'affaiblissements, cela renvoie aussi à cette question de qui sommes-nous, comment vivons-nous, quelles sont les coexistences, quels sont les mécanismes qui disloquent progressivement ce pays depuis une trentaine d'années. Donc ce sont des questions de fond qui taraudent la société française. Je crois juste qu'en ce moment, les Français sont polarisés sur quelque chose d'extrêmement violent qu'ils ont subi, qui est ce Covid-19, avec les conséquences qui arrivent et qui font que c'est suivi par une partie de la population, ce que vous évoquez, mais ça ne s'impose pas du tout comme le sujet majeur dans l'agenda de leurs préoccupations. Ce n'est pas ça aujourd'hui.
Ce qui, même
ne,
veut si pas c'est dire, à la une des médias.
Ce qui ne veut pas dire que c'est mineur. Ah, ça ne sera pas la première fois qu'on voit une dissociation totale entre les préoccupations des Français et les sujets hiérarchisés par les médias.
Olivier Duhamel.
Quelle est la question ?
Est-ce que ça vous surprend que cette question s'impose juste à la sortie de la crise du Covid-19, que on puisse de nouveau revenir sur un passé qui ne passe pas, et là il n'est plus question de celui de, oui, de la collaboration, ni de la guerre d'Algérie, mais de la colonisation.
Oui, mais je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement dans la jeunesse, sont un peu frustrés d'idéal. Je pense que du coup ils s'emparent de nouveaux sujets, alors de façon relativement large, sinon majoritaire, la question climatique, il n'y a aucun doute, qui est la question qui fait la mobilisation de la jeunesse aujourd'hui, et dans une moindre mesure, mais aussi beaucoup ces dernières semaines, la question du racisme et donc celle du colonialisme, et que c'est normal, parce que
Mais c'est pas vous faire injure que vous rappeler que Jean-Marc Ayrault, par exemple, qui propose de débaptiser la salle Colbert à l'Assemblée nationale, n'est peut-être pas l'un de ces jeunes qui découvre un idéal politique.
Je sais pas pourquoi vous voulez balancer une pique à héros au passage là.
Ah non, à vous.
J'avais pas saisi. Oui.
Non, parce que vous expliquez ça par la mobilisation de la jeunesse.
Non, mais Jean-Marc Ayrault, il est président de la fondation
Pour la mémoire de l'esclavage.
Pour la mémoire de l'esclavage. Donc, il fait cette proposition que, d'ailleurs, au passage, puisque vous ne me demandez pas, je peux vous dire, je désapprouve. Je pense que la question des statuts qui quand même intéresse un certain nombre de gens, ce qui est légitime, c'est de regarder ce que la personne incarne. Pas tout ce qu'elle a pu faire de mal, ce qu'elle incarne. Donc, sans prendre à Churchill, c'est complètement con. Évidemment que Churchill était antisémite, et évidemment que Churchill était colonialiste. Mais qu'est-ce qu'il incarne? La lutte contre le nazisme. Donc, on va pas s'en prendre. Et Colbert, il incarne pas le Code Noir, d'ailleurs. Il a été terminé après lui. Il incarne fondamentalement, et ce pour quoi l'honneur, autre chose. En revanche, Bugeaud...
D'avoir planté les chaînes dans la forêt de Troncet.
Hein?
Non, je me demandais ce que vous reteniez comme Colbert.
Colbert, c'est ce qu'on appelle le colbertisme, cher ami. Une politique d'État, industrielle, etc.
Je plaisante, on va devoir rendre l'antenne. Mot, Françoise, juste, là c'est terminé.
Quel est le nouveau chemin possible selon vous?
Ah bah ça, vous me réinvitez.
Et avec qui?
On le fera, c'est passionnant, le temps est passé vite, très vite. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été nos invités. Et le rapport au passé, à la mémoire, à l'oubli, au combat des idéaux d'ailleurs, et le combat de certains qui défendaient la démocratie contre la dictature, c'est ce qu'on retrouve dans ce roman Olivier Duhamel que vous publiez avec Delphine Grouès aux éditions Stock, je le recommande, Les mots du coronavirus. Et puis
le roman Brice s'appelle Tatourier. Carmen et Théo, vous n'avez pas donné le titre.
Carmen et Théo. Non mais les gens,
comme je suis venu
en général, savent
ça
lire. Vous savez, c'est écrit là.
Carmen et Théo, voilà.
Carmen et Théo.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
C'est écrit, mais à la radio, on ne voit pas forcément le titre, Ali Badou.
Trois mots.
Je sens que je ne serai pas invité de sitôt. Merci quand même pour cette fois-là.
Au contraire, et plus vite que vous n'imaginez. Merci à tous, merci aux équipes techniques de Questions Politiques, et donc à la semaine prochaine.